Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le film qui a changé ma vie. Je m'appelle Junior, j'espère que tout va bien de votre côté. Je suis ravi de vous accueillir dans ce podcast qui est là pour vous faire découvrir ou redécouvrir un long métrage à travers le récit intime d'une personne profondément marquée par un film pour plein de raisons, parce qu'il rappelle des souvenirs personnels comme des moments de joie, des moments douloureux, une rencontre, un revirement dans sa vie, ou parce qu'il a été une source de vocation ou d'inspiration comme un choix de carrière, une aide en termes de développement personnel ou encore la découverte d'une passion insoupçonnée. Petit message d'usage, peut-être que c'est la première fois que vous écoutez cette émission. Si vous avez envie de soutenir ce podcast et si vous souhaitez le faire connaître auprès d'un large public, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcasts, iTunes ou Podcast Addict. Je me ferai un plaisir de lire vos messages extrêmement bienveillants ici en fin d'émission pour vous remercier directement. Aujourd'hui, 22e épisode dans lequel vous allez faire la connaissance de l'animateur du podcast Radio Cassette. Il s'appelle Emmanuel Minel et sa rencontre avec le film Forrest Gump fut extrêmement marquante pour le jeune Versaillais à l'époque, à peine âgé de 10 ans lors du premier visionnage. Une quinzaine d'autres ont suivi et ont contribué à lui faire découvrir les faits historiques rattachés au pays de l'oncle Sam, mais ces rewatch, comme on dit en bon français, ont aussi permis à Manu de se plonger dans la culture pop-rock qui jalonne le long métrage de Robert Zemeckis de la première à la dernière minute. Avec Manu, on a parlé de claques cinématographiques, de fresques historiques, de Tom Hanks, de pop culture américaine, de guerre du Vietnam, de la bande-son qui rythme Forrest Gump, de boîtes de chocolat, ou encore du fameux « Cours Forrest, cours !» Bon, je le fais pas aussi bien que dans le film, je le sais, je m'en rends bien compte, je m'arrête là. Je vous propose de découvrir l'entretien enregistré avec l'actuel cofondateur d'une agence d'aide à la création de podcasts pour les marques, juste après un extrait de la bande-annonce de Forrest Gump.
Hello, my name's Forrest. Forrest Gump. Would you like a chocolate?
Oh, thank you.
It's funny what a young man recollects.
You're the same as everybody else. You are no different.
Your boy's different.
Are you stupid or something?
Mama says stupid is as stupid does.
I'm Jenny.
I'm Forrest Gump.
She was my most special friend. My only friend.
We was together all the time. We was like peas and carrots, Jenny and I.
Run, Forrest!
Hey, stupid!
Run!
Now, you wouldn't believe it if I told you, but I can run like the wind blows.
Who in the hell is that?
That there is Forrest Gump, Coach. Just a local idiot.
I never thought it would take me anywhere.
Bonjour Manu.
Salut Junior, ça va ?
Oui, très bien et toi ?
Eh ben écoute, merci, je suis ravi d'être là, c'est super sympa d'avoir fait appel à moi.
Mais vraiment, je suis extrêmement heureux aujourd'hui parce que je reçois quelqu'un dont j'admire le travail, comme tous les invités précédents, encore plus avec Manu Minel de Radio Cassette. On est là pour parler du film Forrest Gump de Robert Zemeckis, mais pour ceux qui vivaient sur une autre planète ou les plus jeunes d'entre nous qui n'ont jamais vu ce film, est-ce que tu peux nous en parler, nous résumer en quelques mots s'il te plaît ?
Ouais, bien sûr. Alors, Forrest Gump, c'est l'histoire d'un neuneu. En fait, c'est un simple d'esprit. C'est comme ça que le définit Robert Zemeckis. C'est un individu simple, c'est un homme ordinaire qui va se retrouver dans une histoire extraordinaire. En fait, il va se laisser porter par ce qu'il va vivre, son contexte, son époque. Et on va vivre l'histoire des États-Unis à travers son regard. Et ça donne lieu à plein de choses. Donc, on va voir qu'il va devenir champion de ping-pong, qui va être un héros de la guerre du Vietnam, qui va monter Bubba Gump, qui va devenir milliardaire en étant actionnaire de Apple. Il lui arrive plein de trucs incroyables et son histoire est formidable.
Le film est sorti en France le 5 octobre 1994 à la réalisation Robert Zemeckis, qu'on ne présente plus. Il a tellement de hits à son actif. Je sais que tu vas pouvoir en citer, Manu.
Ouais, bien sûr. D'abord, t'as la trilogie Retour vers le futur. On aurait pu choisir ce film également aujourd'hui. Ouais, il y en a plein. Il y a Roger Rabbit, il y a Contact, il y en a une infinité. Il a marqué les 90s et les années 80 aussi.
Et au casting, qui est tout aussi impressionnant, Tom Hanks, qu'on ne présente plus, hein, la liste serait trop longue, hein, Seul au monde, Apollo 13, je vous dis vraiment de tête. Hein.
Il y a la ligne verte, je crois que je les confonds, la ligne verte.
La ligne verte, oui.
La ligne verte.
Oui. Le soldat Ryan.
Big.
Sully plus récemment avec Clint Eastwood, Gary Sinise donc en lieutenant Dan qu'on avait pu voir dans Les Experts Manhattan, Robin Wright qui est très célèbre pour un rôle dans une série récente House of Cards, il y avait Sally Field aussi qui a joué Tante May dans les The Amazing Spider-Man. J'ai oublié de préciser juste une chose d'ailleurs, que ce film, et c'est important de le dire, a raflé 6 Oscars dont 3 prestigieux, l'Oscar du meilleur film, l'Oscar du meilleur réalisateur pour Robert Zemeckis et l'Oscar du meilleur acteur pour Tom Hanks. Alors, le film date de 94, donc j'aimerais savoir à quel âge s'est effectuée la première rencontre avec ce film. Est-ce que c'était sur grand écran? Est-ce que c'était sur un écran plus petit? Et tu avais quel âge?
Eh ben j'avais 10 ans, je suis né en 84, donc j'avais 10 ans en 94, et c'est un film que je suis allé voir au ciné. C'est un film que je suis allé voir dans un petit cinéma d'arrêt-essai de Versailles. C'est là où j'étais à l'époque. Je l'ai vu en VO, ce qui était plutôt très rare. Ça devait être peut-être même un des premiers films que j'ai vu en VO au monde. Je me souviens très bien, j'étais chez un copain. Hein, ça devait être un mercredi après-midi ou un samedi. On cherchait un film à voir. À l'époque, on était assez fans de jeux vidéo et il y avait ce film Street Fighter qu'on voulait absolument voir avec Jean-Claude Van Damme.
Tu étais définitivement le public visé.
Voilà, complètement. Et on a raté la séance, je crois, donc on s'est retrouvé en carafe et on allait voir finalement Forrest Gump. On avait dû en entendre parler, je pense, aux infos ou quelque chose comme ça. Donc on y allait sans vraiment savoir ce qu'on allait voir. Et là, on a pris une grosse claque. En tout cas, moi, j'ai pris une grosse claque. Je ne sais plus pour lui, mais moi, oui. Voilà, le film était super dense, hyper riche, et je pense que c'était en fait un des films d'adultes, un des vrais films d'adultes que je voyais pour l'époque, hein, tu vois, j'avais que 10 ans. J'ai trouvé ça formidable et ça, c'était d'une grande maturité, quoi.
Quand tu me racontes ton histoire de la découverte de ce film, qui a initié qui pour vous emmener voir Forrest Gump? Étiez entre enfants ou vous étiez avec les parents, je suppose?
Non, on devait être avec les parents, ça devait être la mère de mon copain qui nous a amenés au cinéma, et puis on a raté la séance, et puis on allait voir un autre, où elle nous a déposé pour la séance d'après, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais oui, c'était à l'époque du cinéma qui était financé par les parents, et je les remercie au passage.
C'est plus précieux que vous ne le pensez de nous emmener au cinéma. Hein. Comme
clair.
Quoi, moi à 10 ans, c'était Mr Bean. Hein. Tu vois, c'est pas le même combat. Voilà, mais c'était tout aussi sympa aussi. Je sais que c'est très compliqué quand on est enfant de raconter ce qu'on ressentait. Tu parles du fait d'avoir vécu une claque. Est-ce que tu peux poser d'autres mots sur ton ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce que tu pensais de ce que tu voyais, du personnage, des paysages, de l'histoire? En plus, c'est assez long. Donc à 10 ans, un film de plus de 2 heures, c'est quand même assez exigeant. Qu'est-ce que tu as ressenti?
Plein de choses, hein. Je pense que la première, c'est que dans les 90s, en fait, on était bercé par la culture américaine, la pop culture, tous les films qu'on voyait, les mamans j'ai raté l'avion, c'était le lifestyle à l'américaine, c'était Schwarzenegger, Stallone, les Pizza Hut, la musique, enfin tout, quoi, clairement.
L'American way of life.
Ouais, à fond, vraiment la vie qu'on rêvait tous d'avoir, et enfin que je rêvais d'avoir en tout cas. Et puis tout d'un coup, je rentrais dans la page de l'histoire des États-Unis, et à travers ce film, en fait, c'était comme un puzzle qui tout d'un coup je voyais la fresque devant moi, et j'arrivais à placer, la guerre du Vietnam, c'est ça, c'était le contexte. Ok, la naissance de telle entreprise, tu vois, Apple, ça correspond à ça. Ok, ça commence, tu vois Elvis Presley, tu peux arriver à dater comme ça des choses qui étaient hyper floues pour moi. Donc tout d'un coup, je me suis retrouvé avec cette fresque historique devant les yeux.
Oui, parce que quand on est enfant, on entend un peu parler de ça au loin, à travers les journaux, à travers les parents qui en parlent. On a quelques moments d'histoire un peu balancés comme ça à gauche à droite, peut-être un peu aussi à l'école élémentaire, l'école primaire. Mais finalement, on a du mal à avoir ça de façon linéaire. Je vois à peu près ce que tu nous évoques.
Ouais.
Quand on sort de la salle, on en parle avec le copain, avec les parents, on débriefe un peu le film?
Alors oui, je pense qu'on l'a débriefé. Alors savoir ce qu'on s'est dit, ça je serais incapable de te le dire, je ne l'ai pas retenu. Par contre, j'ai gardé le ticket de cinéma à l'époque, c'était un truc que je faisais, j'ai gardé précieusement les tickets de cinéma. Je pense que j'ai fait ça pendant des années, pendant 10 ans, puis je pense que quand j'en ai eu 200 ou 300, j'ai fini par arrêter. Il y a d'autres choses que j'ai vues avec ce film, on parlait de l'histoire des États-Unis, mais il y a plein de choses, il y a l'histoire de la musique aussi. Voilà, c'est une BO qui a été super marquante, que j'ai eu en CD, que j'ai beaucoup écouté. C'est une BO en fait qui est une compilation parce que c'est les meilleurs titres de la culture américaine, trap, pop, folk, rock. Et puis il y avait ce héros quoi, ce héros assez ordinaire mais qui est en fait extraordinaire d'avoir au ciné parce que on était à l'antithèse de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme que j'ai toujours pas vu d'ailleurs. Mais
je crois que tu rates pas grand chose.
et du coup. Et du coup, ouais, moi, c'est un héros qui m'a énormément marqué, Forrest Gump.
Tu parlais de lui en tant qu'idiot, il est présenté comme ça, hein, en tant que simplet, quelqu'un en dessous de la norme, niveau QI, il a 5 points de moins que le QI le plus bas, si j'ai bien retenu, il est en dessous des 75, ça craint, quoi. Il y a ce personnage, d'accord, qu'est-ce qui t'a plu dans la façon dont il était dessiné avec le temps et à force de l'avoir visionné?
Bah, je l'ai vu facilement 15 ou 20 fois ce film, donc
wow.
Je pense que j'ai grandi un peu avec, et puis c'est un espèce de compagnon, quelqu'un que tu vois différemment quand t'es petit, quand t'es plus grand.
Comment tu le voyais petit du coup?
Petit, ben, je le voyais comme, ben, c'était marrant, hein, c'est l'histoire d'un simplet, il lui arrive des trucs incroyables, c'est une énorme victime, il se fait jeter des pierres, voilà, il a rien pour lui, et malgré tout, il va cartonner, donc c'est un joli pied de nez à la vie, et je trouve ça, en fait, hyper, c'est plein d'espérance. Ça, c'est mon regard maintenant d'aujourd'hui qui permet de te le dire, mais... Plutôt que de te dire, est-ce que je suis de la taille, est-ce que j'ai les épaules d'un mec super bodybuildé, ultra fort, même quand comme tu pouvais le voir dans Super Beau Gosse, comme tu pouvais le voir dans Beverly Hills, Parker Lewis ou je sais pas quoi. Tout d'un coup, on te présente quelqu'un de super simple qui réussit. Et c'est rare. Et donc, c'est plein d'espoir parce que tu te dis, bah ouais, moi je suis un mec ordinaire et bah potentiellement, je peux aussi réussir ma vie.
Donc tu l'as vu enfant à 10 ans, je suppose que tu l'as vu adolescent, jeune adulte. J'aimerais bien savoir un peu, Manu, quel jeune adolescent tu étais quand tu regardais ce film parallèlement.
Ok, alors,
c'est parti pour la psychanalyse. Monsieur Manu Minel.
Alors, quel ado j'étais? Je pense que j'étais ultra fan de musique déjà, j'écoutais beaucoup la radio, j'avais des copains, j'étais un peu geek, je m'intéressais à des collections, voilà, je lisais le journal de Mickey, j'allais au cinéma, je sais pas qu'est-ce que je peux te raconter d'autre. J'étais un garçon plutôt sage, tu vois, j'ai pas fait de trucs complètement ahurissants. À l'adolescence... j'ai fait une crise d'ado comme tout le monde. Non, j'ai pas un parcours extraordinaire à te raconter.
Non, je pose cette question parce que ça a quand même eu une incidence sur toi, le fait de voir un Forrest Gump, parce que tu te sentais finalement, et heureusement, tu te sentais pas comme étant quelqu'un de spécial, et ça a eu une résonance en toi. Et j'aimerais bien savoir ce cheminement-là qu'il y a eu pour que ça résonne autant en toi.
Je pense que c'était d'abord porté par l'histoire de ce mec-là que je trouvais génial, drôle. C'est un film qui a somme, dans lequel il y a vraiment de tout. Il y a des moments où tu pleures, des moments où tu ris, il y a des moments de grande émotion, il y a des moments où tu es trop content pour lui parce qu'il arrive enfin à faire un truc qui était bloqué chez lui. Et puis tu le vois grandir. Tu le vois petit, tu le vois grand, tu le vois beaucoup plus grand et à son tour qui devient papa. C'est très très beau de voir ça. Là, je me suis éloigné de ta question. T'as vu, j'essaye de l'éviter.
Je vois ça. Non, bah justement, on va y rester dans cette question de l'évolution du personnage. Il y a énormément de faits historiques qu'il traverse. Là, on va rentrer plus dans, quelque part, le fait de d'écrire le film. Est-ce que tu peux, justement, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu Forrest Gump et qui écoutent ce podcast, est-ce qu'on pourrait les passer en revue toutes ces époques qu'il traverse et tous ces moments charnières qui sont si précieux dans la culture américaine qui sont traversés par Forrest Gump?
Ok, pas évident, hein, parce que c'est une grosse fresque, mais ça commence avec les 50s, les années 50. Il est en Alabama, il est nul à l'école, tu l'as dit. Pour se faire accepter, c'est sa mère qui couche avec le proviseur ou le dirigeant de l'école pour qu'il puisse être accepté. Donc il se retrouve dans un environnement normal, alors qu'il devrait peut-être être dans un enseignement spécialisé. Voilà, il est victime, il se fait jeter des pierres. Et puis il y a cette fille qu'il rencontre un jour, qui s'appelle Jenny, qui est la seule à côté de qui il peut s'asseoir, parce que personne ne veut s'asseoir à côté de lui. Et puis ça va devenir sa meilleure amie. Elle va l'accompagner toute sa vie. On va avoir différentes époques. Un peu plus tard, ils vont devenir ados. Donc tout d'un coup, on passe au vrai acteur Tom Hanks. Et puis, ils sont étudiants, ils sont au lycée, en high school. Et puis, on retrouve les mêmes scènes. Ils continuent à se faire jeter des pierres par les mêmes...
Sauf que là, ils le poursuivent en voiture.
Là, ouais, exact. Ils sont plus en vélo, là, ils sont en voiture. C'est un peu plus vénère pour lui, mais il arrive à y échapper. Parce qu'on n'a pas dit... Bon, on va pas tout raconter le film, mais... bon voilà, donc il y a cette époque là puis ensuite il va quitter le cercle familial, il va aller au Vietnam, il va revenir du Vietnam, il va monter un business un peu malgré lui, il va se retrouver à cartonner par un concours de circonstances, il va devenir le patron d'une grande firme qui s'appelle Booba Gump. Je t'ai dit ça, mais j'ai oublié de te dire qu'il était devenu entre-temps champion de ping-pong à l'armée, parce qu'il a l'occasion de jouer au ping-pong, il se retrouve comme ça propulsé sur le devant de la scène.
Complètement stupide.
Bah oui, c'est Forrest Gump.
Ne fais pas attention à eux, Forrest.
Cours, Forrest, cours, vite.
Prenez les vélos.
Cours, vite, allez, Forrest.
Attends un peu, crétin, on arrive.
On va voir si on t'attrape.
Cours, Forrest, cours. Cours, Forrest.
Reviens ici, toi.
Je vais justement resituer. Déjà, il y a une réplique culte qui est répétée à l'envi quand Forrest est en danger. Qu'est-ce qu'on lui dit sans arrêt ?
Et là, on vient me dire « cours ». C'est « cours, Forrest, cours ». Bien sûr.
Déjà, et quand il arrive à l'université avec l'histoire du foot américain, où on lui demande ça, c'est une espèce de...
De belle revanche. Le cours Forrest Court, qui était ce que lui disait Jenny quand il se faisait pourchasser par ses vilains petits camarades en vélo puis en auto, en fait, il était simple, mais il savait courir super vite. Et donc, il se retrouve par hasard embarqué à un match de foot américain où, en fait, il va battre les plus grands sportifs de cette équipe.
C'est son super pouvoir.
Et finalement, voilà, son super pouvoir, c'est « prends la balle ». Court et point, il pose la balle et il marque des points à chaque fois. C'est ce mec incroyable.
La guerre du Vietnam, tu l'as évoqué. La question aussi de la ségrégation raciale en fac, notamment avec l'arrivée de deux personnes de couleur, le combat des Black Panthers. Bref, tous ces faits historiques-là, tu me dis que tu t'es plongé dans la culture américaine. À partir de quel âge on voit ce film et on se dit, c'est bien beau ce qui est raconté dans ce film, mais j'ai envie, moi, de comprendre et de savoir comment ça s'est réellement passé.
Pour être tout à fait honnête, j'ai pas fait ce niveau d'analyse, mais après, c'est des choses que j'ai appris au lycée ou que j'ai vu via d'autres films qui vont traiter d'une époque ou d'un thème en particulier. Mais quand je revois le film, il y a encore des choses que j'ai pas forcément tiltées, que je vais voir après coup. Parce qu'effectivement, ça va être des points d'anecdote. Par exemple, tu vois, il y a une scène qui doit durer peut-être 30 secondes où il se retrouve dans un immeuble et en fait, il va voir qu'il y a des cambrioleurs qui sont dans un appartement voisin, qui sont en train de fouiller avec des lampes torches. Et puis, il a cette réflexion un peu marrante en disant, moi, j'ai tout de suite prévenu les gardes parce qu'en fait, ils avaient un problème d'électricité parce qu'ils n'arrivaient pas à allumer la lumière.
C'est
et
génial.
En fait, il va se retrouver à dénoncer le scandale du Watergate aux États-Unis. Et voilà. Bon, c'est ultra anecdotique, c'est le genre de truc que tu captes pas tout de suite et que tu captes, enfin, que tu peux ne jamais capter peut-être.
Exactement, et c'est excellent tout ça pour finalement réinventer l'histoire, la réécrire et expliquer qu'on est dans les années Nixon et que ça va le pousser à la démission.
Tout à fait. Alors des fois, c'est marrant parce qu'il est spectateur de ce qui se passe, et parfois il devient acteur, il va influencer sur l'histoire. Donc t'as ces fameuses scènes où il se retrouve à serrer la paluche de Kennedy. Ils ont fait un montage, un trucage de fou pour l'époque. Bien sûr, ça s'est pas passé comme ça, mais c'est marrant de voir également comment il rentre dans l'histoire.
Au sens propre du terme, il rentre dans la petite lucarne, et il y a toujours d'ailleurs sa mère, sa sœur qui le voit. Ton rapport justement à la culture américaine, tu me dis que ça s'est amplifié et développé avec ce film. Comment ça s'est passé dans ta vie en grandissant, en devenant un jeune homme, puis un trentenaire? Comment tu t'es nourri de cette culture américaine?
Disons que ce film a été pour moi l'occasion de découvrir la culture américaine. Je ne m'y suis pas forcément replongé, je n'ai pas eu un goût ultra prononcé pour la culture américaine. Mais je peux te parler de musique parce que finalement, c'est à travers la musique que j'ai découvert également l'histoire du rock, l'histoire de la musique aussi au sens plus large. Et en fait, c'est la première fois que j'ai écouté Buffalo Springfield, les Mamas and Papas, les Doors, Bob Dylan... Et c'est des choses qui m'ont marqué ensuite, que je suis allé chercher. Quand je me suis décidé à 15 ans à acheter une platine vinyle et commencer à chiner des vinyles, le premier disque que j'ai acheté, c'était les Doors. Parce que c'était cet héritage, ce petit patrimoine que je m'étais fait de la culture américaine via ce film notamment.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth.
Bah tiens, on va y rester sur la BO. Quels sont les extraits musicaux que tu préfères dans le film ?
Il y a le premier qui est assez marquant, c'est Elvis Presley. Il va se retrouver face à Elvis Presley dans une chambre, parce que tout simplement, en fait, la grande maison en Alabama qui appartient à sa maman loue des chambres à des gens de passage. Donc il y en a plein, dont un certain Elvis Presley, qu'on devine à peine. Et en fait, la petite histoire, c'est que Elvis va choper son jeu de jambes sur Forrest, qui à l'époque a des attelles de fou et qui a un style incroyable. Donc, c'est assez rigolo. Donc, tu commences avec Elvis. J'ai pas la BO sous les yeux, mais.
Je dois avouer que malheureusement, j'ai pas le son en tête.
Je pense que ceux qui m'ont le plus marqué, t'avais Blowing in the Wind de John Baez, t'avais Mrs. Robinson de Simon & Garfunkel. T'avais quoi ? T'avais California Dreaming, des Mamas and Papas. Je pense que c'est plutôt la partie 70s qui m'a intéressé, ou vraiment à l'image, ce qu'on va voir, c'est les grands paysages américains, c'est la période hippie, qui est une période qui est hyper prolifique, hyper créative.
Oui, d'ailleurs, on a le personnage de Jenny qui plonge pleinement dans tous les excès, d'ailleurs, du personnage hippie, puisque la drogue, sexe, drogue et rock'n'roll, c'était un peu ça. Je voulais juste, pour en revenir au BO, tant que j'y pense, il y avait aussi Jimi Hendrix.
Ouais, il y a Jimi Hendrix.
All Along the Watchtower.
Ouais.
Il y a Jackson Brown, c'est... Running on Empty. Il y a What the World Needs Now is Love.
What the World Needs Love.
Voilà. Ouais. Très connu, hyper reprise dans plein de comédies romantiques. Je les ai plus en tête, là, mais toutes celles avec Julia Roberts, sûrement.
Ouais, mais t'as complètement raison. Ce qu'on a, c'est des morceaux qui sont tous ultra connus. C'est tous des tubes. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si la BO elle a autant cartonné. Dis-toi que c'est une des bandes originales les plus vendues dans les 90s. Devant Le Roi Lion, devant Titanic.
C'est complètement dingue.
Ben, en fait, au-delà de simplement Forrest Gump, c'est vraiment le best-of un peu de l'histoire américaine, l'histoire du rock. Ça parle à tout le monde.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb.
Il y a aussi des citations très marquantes. Je sais qu'il y en a tout de suite une qui va te venir à l'esprit. Qu'est-ce qu'on peut aussi citer comme réplique ?
La plus connue, c'est « La vie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Et ça dit tout, en fait, ce film. C'est à la fois Forrest Gump, qui n'a pas choisi d'être Forrest Gump, qui subit un petit peu ça, c'est un peu un simplé. Et puis également, c'est ce qui se passe dans sa vie, c'est-à-dire que toutes ces choses qui vont lui tomber dessus, ça lui tombe dessus. Et finalement, jamais il va se la raconter, jamais il va dire « j'ai fait des bons choix » ou jamais il a eu envie d'avoir du succès. Ça lui est arrivé comme ça. Et en fait, il a pris les choses telles qu'elles étaient. Il les prend toujours de manière super positive. Alors que la plupart des autres personnages du film vont dire « Mais non, Forrest, tu peux pas faire ça, tu comprends. » Lui, s'en fout. Il raisonne pas comme ça. Il garde une âme d'enfant, même quand il est adulte. Il va y aller à fond et sans se poser de questions.
Et c'est ça qui est très étonnant quand on regarde le film aujourd'hui, c'est qu'il garde ce caractère enfantin. tout du long. Et parfois même, finalement, c'est peut-être le plus sage et le plus philosophe de tous les personnages. C'est assez troublant. Alors, il y a cette citation. Ouais. Il y en a d'autres. Hein. Je pense à... il faut laisser le passé derrière si on veut avancer. Il cite toujours sa mère. Je pense également à c'est marrant de se rappeler certaines choses et d'en oublier. Ça peut paraître d'une banalité sans nom, mais qu'est-ce que ça nous parle encore à nous, une fois adultes, finalement ?
Bonjour. Je m'appelle Forrest, Forrest Gump. Vous voulez un chocolat ? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Des scènes vraiment que tu peux extirper et qui pour toi sont incontournables. Quelles sont les scènes les plus marquantes pour toi ?
Alors, il y en a un paquet.
Tu peux m'en citer deux, soyons fous.
Moi, il y a la scène qui me fait chialer à chaque fois. C'est quand il va se retrouver à la fin sur la tombe de Jenny et qu'il lui parle en parlant de son fils, en lui expliquant qu'il est trop mignon, qu'il grandit bien et qu'il est normal. Et il avait très très peur qu'il soit un peu neuneu comme lui, parce qu'il est neuneu mais pas complètement. Il se rend compte quand même aussi qu'il lui manque une petite case un peu sociale avec les gens. Il y a ce moment-là que je trouve très fort, très touchant. Puis il y en a d'autres qui sont super marrants. Je pense notamment quand il est au Vietnam, qu'il se retrouve avec le sergent instructeur, qu'il est en train de monter ses armes comme un fou, parce qu'il faut démonter, remonter la mitraillette, voilà, dans des temps records. Voilà, c'est de l'entraînement des Marines, quoi. C'est vraiment... Et en fait, il est super fort à faire ça parce que justement, il faut pas être très malin, faut pas se poser trop de questions. Et lui, il est super fort parce que voilà, c'est un boulot de débile, donc il est le meilleur pour faire ça, quoi. Et donc c'est hyper drôle. Et là, t'as le sergent-chef qui lui dit putain, Gump, t'as encore battu le record, machin. Comment ça se fait ? C'est quoi ton putain de secret ? Tu dois avoir au moins 180 de QI. Il dit oui, sergent instructeur.
C'est tellement ça. Et en fait, comme il le dit si bien avec cette voix et cette façon de penser si enfantine, être alarmé, c'est être comme un poisson dans l'eau. Je m'y sens comme un poisson dans l'eau parce que
oui.
On me demande de faire quelque chose, je dois le faire. C'est bête et méchant.
Quel est ton seul et unique but dans cette armée ?
Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur !
Putain de merde, Gump ! T'es un putain de génie ! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue ! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160 ! T'es un putain de merde de deuxième classe doué, Gump ! Écoutez-moi, les mecs !
Je sais pas pourquoi, je me suis trouvé à l'armée comme un poisson dans l'eau. C'est pas très difficile. Il faut juste faire son lit au carré et se tenir bien droit. Et répondre à toutes les questions par « Oui, sergent instructeur ».
Est-ce que c'est clair ?
Oui, sergent instructeur !
Et c'est vrai que ça t'a rappelé un autre film d'ailleurs, ce genre de scène-là, entre les scènes de préparation militaire. Je sais pas si ça t'a rappelé un autre film.
Il y en a plein, Apocalypse Now, ou tu penses à d'autres, c'est ça ?
Full Metal Jacket aussi, tu sais.
Oui, Full Metal Jacket, Les Sentiers de la Gloire, mais c'est une autre guerre.
D'ailleurs, il y a une scène, on se serait cru dans un film de guerre, quand il est au Vietnam et qu'il porte un par un ses partenaires pour les sauver d'obus qui tombent sur lui. Ça m'a clairement rappelé un autre film produit par un ami de Zemeckis, d'ailleurs réalisé par un ami de Zemeckis. Je ne sais pas si tu vois, si t'as le même que moi en tête. C'est le soldat Ryan pour la petite histoire.
Ah, oui.
Quand je regarde le film aujourd'hui, je vois une volonté toujours d'aller vers de l'avant de Forrest Gump, alors que sa chérie, c'est au contraire pas à avancer. Au point qu'elle souhaite se supprimer. En tant qu'adulte, toute la question du trauma qui est traité dans le film, est-ce que tu l'aperçois et comment tu l'aperçois ?
Alors, non, je ne l'ai pas perçu. Je pense que tu as fait plus d'études de psychologie que moi.
Non, pas du tout.
Effectivement, lui, il ne se pose pas de questions. Hein. C'est toujours « j'y vais » et puis il ne réfléchit pas. Il a l'avantage de ses défauts pour ça. Effectivement, là où Jenny, elle va se perdre. Après, Jenny, il y a aussi un élément un peu dur pour elle, c'est qu'elle était violée, battue petite. C'est quelque chose qui n'aide pas à se construire. C'est quelque chose qui va la handicaper toute sa vie. Alors, tu as quelque part, on va dire, tu as... Ouais, c'est un peu deux formes de handicap. C'est un peu comme deux personnes... Un peu, comment dire...
Abîmé.
abîmés, voilà, c'est ça, merci, qui partent avec du plomb dans l'aile et qui se sont bien retrouvés d'ailleurs, c'est pour ça je pense. Et puis ils ont besoin l'un de l'autre.
Oui, et c'est ce qui se passe jusqu'à un certain point. Bon, on va rentrer dans la zone spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais il y a prescription, le film est quand même sorti il y a 27 ans, faites un effort. Jusqu'à ce que Forrest Gump devienne papa et il a un petit garçon. Je ne sais pas si tu as reconnu ce visage du petit garçon.
Oui, c'est Haley Joel Osment.
Voilà, c'est bien
ça,
lui.
C'est ça, j'écorche pas son nom, j'espère.
C'est bien lui.
Ouais, ouais, c'est le petit garçon qu'on découvre tous ensuite dans le sixième sens, qui va jouer dans A.I., mais qui là est encore plus petit.
Mais
quoi.
Oui, et le visage n'a pas bougé. On l'a reconnu, mais ouais. On le reconnaît, mais direct.
Cette petite bouille ronde de poupée.
Complètement.
Le petit Forrest, il va très bien.
Mais
il va bientôt reprendre l'école. Je lui fais ses petits déjeuners et dîners tous les jours. Je veille à ce qu'il coiffe ses cheveux, se brosse les dents tous les jours et je lui apprends à jouer au ping-pong.
D'accord.
Il est très doué.
Forrest, à toi.
On va souvent à la pêche. Et tous les soirs, on lit un bouquin. Il est tellement intelligent. Tu serais si fier de lui. Je le suis, moi.
La dernière fois que tu t'es plongé dans ce film, c'était quand ?
Il y a un an, je pense.
Pourquoi tu t'y es replongé ? Qu'est-ce qui fait qu'on y retourne, alors qu'on l'a déjà vu 15 fois ?
Parce que tu sais que tu vas aimer ce film, tu sais que tu vas y retrouver tout ce que tu veux. C'est comme un doudou, quoi. Tu vas retrouver... C'est un film qui t'accompagne et tu sais ce que ça va être. C'est un film qui est porteur de sens, qui est plein d'espoir, qui est marrant, qui te fait pleurer, on l'a dit. C'est un film qui te fait réfléchir. Donc oui, c'est quelque chose que j'aime voir et revoir.
Juste une chose, ça m'intrigue aussi. Que ce soit quand tu étais petit, ado, jeune adulte ou encore aujourd'hui, est-ce qu'on a le souci de partager ce film que comment ça tu l'as pas vu ? Il faut absolument que tu vois ce Forrest Gump.
Oui. Oui, bah, d'ailleurs, j'avais une petite anecdote là-dessus, c'est que donc le film sort au ciné en 94, il va sortir en VHS en 95. Nous, à l'époque, les VHS, on a un magnétoscope, mais avoir une vraie cassette VHS déjà enregistrée, ça coûtait un peu cher, il n'y en avait pas beaucoup à la maison. Et là, on avait réussi à négocier avec ma maman qu'on puisse acheter ce film, et donc on l'avait commandé, on l'avait même précommandé, et j'étais super fier de dire à mes copains à la cour, en cours de récré, « Ouais, je vais avoir Forrest Gump, etc. Et tu veux que je te le prête, le film, il est trop bien, tu verras. » Et en fait, avant même qu'on l'ait reçu, je m'étais déjà engagé à le filer à au moins 5 personnes autour de moi, et après j'ai dû leur dire « Bah écoutez, alors non, ma mère ne veut pas que je le prête tout de suite, il va falloir attendre un peu. »
C'est trop mignon.
Bah ouais.
C'est super important, en plus c'est intéressant ce que tu dis sur de recontextualiser, parce que ça coûtait cher des VHS.
C'était 150 francs.
C'est hallucinant, donc on est autour de 25 euros aujourd'hui, quoi, ouais. La VHS. Donc c'est un truc hallucinant, c'est beaucoup plus cher qu'un forfait Netflix ou Amazon aujourd'hui, et faut pas l'oublier, donc c'était précieux, et ça s'usait vite, hein, dès que tu la matais un peu trop, comme on est enfant, on matait en boucle.
Ouais.
En tout cas, je pense qu'on aura bien fait le tour de ce Forrest Gump. Je tiens à signaler que le film est disponible sur toutes les plateformes de VOD classiques, donc Orange, Canal VOD, YouTube, Apple TV, Filmo TV pour citer une plateforme française, c'est important. Donc le film s'appelle Forrest Gump et on vous le recommande chaudement, vous l'aurez compris. On passe à toute autre chose et on va passer aux deux recommandations de Manu. Alors je vais te demander s'il te plaît de bien vouloir nous annoncer la première. Qu'est-ce que tu peux conseiller à nos auditrices et auditeurs, Manu ?
Alors, on va rester dans les 90s, un film de Quentin Tarantino, je ne sais pas si vous connaissez ce jeune réalisateur, qui a signé un film qui s'appelle Pulp Fiction, Palme d'Or en 94, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, tu veux que je le présente
brièvement ? Juste en deux mots, le résumé, si tu peux, s'il te plaît.
Bien sûr, l'histoire de quelques malfrats à Los Angeles, et ce qui est super intéressant, c'est la galerie de personnages et les histoires qui sont entrecoupées, entremêlées, c'est très très fort.
Oui, c'est vraiment un excellent film, c'est un grand classique. Pulp Fiction, donc, qui est pareil, disponible sur beaucoup de sites de vidéos à la demande, en DVD et Blu-ray bien sûr. Et au casting, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Harvey Keitel, et je m'arrête là parce que c'est tous les noms que j'ai en tête, mais j'en ai plus d'autres. Le film s'appelle Pulp Fiction et c'est réalisé par Quentin Tarantino, un grand cinéaste à qui, pareil, je dois beaucoup sur l'intérêt de la cinéphilie. Vraiment, j'avais découvert Reservoir Dogs et je m'en suis jamais remis. Donc c'est extrêmement puissant aussi, je vous le recommande, tiens, au passage, Reservoir Dogs. Deuxième recommandation, s'il te plaît, la seconde d'ailleurs, recommandation de Manu.
Alors accrochez-vous, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, d'un certain Stanley Kubrick. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le plus grand réalisateur de cinéma du monde, tout simplement. Et à travers 2001, l'Odyssée de l'espace, il ne fait pas un film de science-fiction, il va en fait faire un film sur l'humanité de manière très métaphysique et très allégorique. Prenez un bon café et matez-le sur grand écran.
Faut s'accrocher, hein. Je l'ai vu il y a une éternité. Bah tu vois, avec ta recommandation, je vais m'y replonger. Pas le choix. Je l'ai vu il y a une éternité, j'avais pas forcément aimé, mais ça ne veut rien dire. Je crois que j'étais trop jeune pour le comprendre aussi. Il date de 1968. 2001, l'Odyssée de l'espace. Rappelons, Kubrick, c'est évidemment Shining ou Eyes Wide Shut, entre autres. Et le film est disponible donc sur les plateformes VOD citées avant. On peut rajouter la cinémathèque des réalisateurs, et en streaming sur la plateforme Salto. Juste, oui, Manu, moi je t'ai découvert dans le podcast Radio Cassette. Pour ceux qui ne t'ont jamais entendu, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle, Radio Cassette ? De quoi vous parlez ?
Alors, Radio Cassette, c'est quatre copains qui se retrouvent pour parler chaque mois d'un disque culte qui ont marqué nos années 90. Parce qu'en fait, c'est moi et trois copains. Voilà, donc on va parler de Britney Spears, de Dr. Dre, de Nirvana, de Francis Cabrel. On a peur de rien et on se marre bien.
Voilà, c'est noté Radio Cassette, la bande son des années 90. C'est bien ça le sous-titre ?
Absolument.
Je te remercie beaucoup, en tout cas Manu, d'avoir accepté de répondre à mes questions.
Et ben, je t'en prie, c'était un plaisir.
À très bientôt.
Merci à toi Junior, à bientôt.
Non, l'épisode n'est pas encore fini, on n'arrête pas tout de suite son appli préférée, puisque comme promis en début d'émission, je continue ma tournée de remerciements en lisant l'un de vos messages, laissé cette fois sur Apple Podcast, un message qui va droit à l'essentiel et qui a été écrit par Claire SCNY. Bon, je vais juste dire Claire. Elle m'écrit un podcast cinéma où la dimension humaine est très forte, très agréable à écouter, tout simplement. Merci beaucoup pour ce message clair, c'est en effet le nerf de la guerre, c'est ce qui m'anime le plus quand je fais cette émission, c'est vraiment l'expérience du spectateur et chercher à comprendre comment chacun arrive à digérer une œuvre du 7e art et comment parfois on arrive à en tirer quelque chose pour s'élever, observer le monde différemment, se consoler, rire aux éclats, se documenter, bref, la liste est longue et c'est un vrai plaisir d'entendre des spectateurs cinéphiles, ou non d'ailleurs, parler des films avec leurs tripes. Bien évidemment, je poursuivrai ce travail de recueil de témoignages dans une deuxième saison qui débutera en septembre prochain. Je vous invite à faire comme Claire, laissez-moi un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, iTunes ou Podcast Addict et c'est peut-être votre message que je lirai prochainement. Le film qui a changé ma vie, épisode 22, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'épisode que vous venez de suivre ainsi que les 21 précédents sur toutes vos plateformes streaming préférées. Les coulisses de l'émission sont à découvrir sur nos comptes Twitter et Instagram. Merci à vous de nous avoir suivis, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.